Eh bien, merci à toute l'équipe d'Accent d'Europe. Nous évoquons ce soir la mobilisation de la communauté internationale face à ce qui se passe à Gaza dans le débat du jour.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Et oui, car Gaza s'enfonce un peu plus chaque jour dans l'horreur. Ce lundi, au moins 52 personnes ont été tuées selon la défense civile palestinienne, dont 33 dans une école. Une école qui abritait des déplacés. La vague d'émotions ne cesse de progresser, l'indignation également, et avec elle, les initiatives qui se multiplient aux quatre coins de l'Europe. Ainsi, les ambassadeurs d'Israël sont convoqués. Bruxelles, premier partenaire commercial de l'État hébreu, va réexaminer l'accord d'association qui a été conclu il y a 30 ans avec Israël. Notre question ce soir, faut-il rompre avec Israël ? Jusqu'où la communauté internationale peut-elle aller pour stopper l'offensive sanglante en cours sur Gaza ? Eh bien, soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités ce soir, à mes côtés en studio, Alexandre Chatillon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes cofondateur et directeur de Supernova, qui est une ONG qui jusqu'au 7 octobre 2023 s'occupait surtout de projets en faveur des femmes et qui depuis a réorienté ses actions vers les camps de déplacés. En ligne avec nous, Alain Dikoff, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de recherche au Centre d'études internationales Sciences Po. Votre ouvrage « Israël-Palestine, une guerre sans fin » et Jean-Paul Chagnolo qui nous rejoindra dans quelques instants, certainement pris dans les embouteillages parisiens de ce lundi. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Première question, Alain Dikoff, que vous inspirent les tout derniers rebondissements ? Parce qu'il se passe pas mal de choses ces dernières heures concernant la guerre à Gaza. Je vais donner quelques informations. Il y a moins d'une heure, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, a dit dans une vidéo qu'il espérait faire une annonce sur les otages à Gaza, je cite, aujourd'hui ou demain. Et ces propos interviennent quelques heures après qu'une source du Hamas a affirmé que le mouvement avait accepté une trêve proposée par les médiateurs. Et pour rappeler le contexte à nos auditeurs avant de lancer le débat, depuis le 17 mars, le cessez-le-feu est rompu à Gaza. Israël ne cesse d'intensifier son offensive militaire sur Gaza. La semaine dernière, Benjamin Netanyahou a dit qu'il souhaitait qu'Israël s'empare de tout le territoire de Gaza. Alain Dikoff, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre, selon vous ? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre face à ces dernières évolutions ?
Alors, je ne sais pas si, évidemment, cette fois-ci, la possibilité de concrétiser un cessez-le-feu sera plus réelle cette fois-ci que dans le passé. Mais je pense que si cette possibilité a été évoquée à nouveau, c'est aussi en partie du fait de la montée des pressions internationales sur Israël, qui certainement pousse le gouvernement à chercher plus, de façon un peu plus active, disons, la voie d'un compromis. Mmh.
Donc ça veut dire qu'on va en parler de ces pressions, justement, ça veut dire qu'elles portent peut-être leurs fruits. Alexandre Chatillon, que vous inspirent ces derniers rebondissements ? On a l'impression qu'il est en train de se passer quelque chose entre, encore une fois, Benjamin Netanyahou qui dit voilà, il va y avoir une annonce concernant les otages, le Hamas qui aurait accepté effectivement une trêve.
Bon, les Américains ont malheureusement dit que ce n'était pas du tout le cas. Et un petit tweet de Witkoff a indiqué il y a encore quelques heures que
l'émissaire américain.
Et tout à fait, que le Hamas n'avait envoyé que des nouvelles désolantes, si je traduis son tweet. Alors, on est à la fois pris par l'espoir, nous, Européens et humains, qu'il se passe quelque chose. Et à la fois, moi, je reste assez attentif. Parce que tout peut se passer. C'est-à-dire, il peut effectivement se passer quelque chose avec un accord sur la libération des otages, condition sine qua non pour les Israéliens pour bouger dans un sens ou dans un autre. Donc il peut tout se passer, la libération comme une intensification des frappes. Et donc je suis optimiste parce que j'ai envie d'être optimiste pour les Gazaouis et je suis sceptique parce que la politique américaine peut aller dans tous les sens et que la politique de Benjamin Netanyahou est adossée à la politique américaine.
Alors vous êtes, vous, directeur de cette ONG Supernova, et vous avez des équipes à Gaza, vous me disiez.
Tout à fait. J'étais même plusieurs reprises l'année dernière.
Ouais. Que vous disent-elles ? Quels sont les derniers échos que vous avez de ces équipes ?
Alors, que la famine n'est pas un concept abstrait à Gaza, que la famine est quelque chose qui tiraille le ventre des Gazaouis au quotidien et que la priorité de mes équipes, c'est de trouver à manger. Mmh. Alors que ce sont des collaborateurs qui sont payés par la communauté internationale, par une organisation comme la nôtre, on paye des salaires relativement décents, et même pour eux qui touchent un salaire, c'est extrêmement difficile de trouver à manger. Alors on imagine aisément, pour 2 millions de personnes qui ne sont pas salariées, puisque l'économie de Gaza est à genoux, quel est le quotidien dans une enclave où la population est, je le rappelle, incapable de sortir. Il est interdit pour les Gazaouis de sortir. C'est techniquement impossible. Et donc, on a 2 millions de personnes qui se retrouvent sans aide alimentaire depuis 2 mois, hein, depuis la fin du cessez-le-feu.
De mars, effectivement, plus aucun convoi. Alors, la semaine dernière, ouais, il y a eu un petit compte-gouttes de convoi humanitaire.
Ça mais fait une centaine de camions par jour. Depuis une semaine, ça fait grosso modo 500 camions.
Ouais. Sachant qu'il n'y a rien eu pendant plus de 2 mois.
Voilà, rien pendant 2 mois. Et avant le 7 octobre, c'était plus de 500 camions par jour qui rentraient pour approvisionner la bande de Gaza. Et si on se souvient un peu, si on fait un petit exercice historique, on se souvient déjà que la bande de Gaza, on disait que c'était une prison à ciel ouvert et que c'était pas un endroit où on avait envie d'aller en vacances. Mmh. Et donc si, en temps déjà difficile avant le 7 octobre, il y avait que 500 camions qui rentraient par jour, c'était difficile, on imagine ce que représente maintenant à peine une centaine de camions par jour pour la bande de Gaza et pour sur les 5 derniers jours. Mmh. Donc une situation, moi, ce que mes équipes me remontent, c'est qu'une situation politique, une situation économique terrible, une famine, la peur au quotidien, la peur au ventre, on le voit avec, là, sur ces 3 derniers jours, des attaques de plus en plus violentes qui touchent de plus en plus de civils. On a tous en tête cette famille de médecins qui a perdu ses 9 enfants, et puis le 10e qui est avec son père à l'hôpital. Des images horribles. On pense qu'on ne peut pas aller plus loin dans l'horreur, et pourtant, on y va. Mmh. Et donc, je suis mesuré sur mes attentes, plein d'espoir pour les Gazaouis, mais mesuré face à l'horreur qui continue systématiquement.
Et comment vous observez, alors on va évidemment détailler, c'est au cœur de notre débat, mais comment vous observez face à cela l'attitude aujourd'hui de la communauté internationale ?
Alors moi, je voudrais saluer, bien que tardivement, le réveil français, anglais et canadien de la semaine dernière avec un communiqué de presse.
Nous ne resterons pas les bras croisés.
Exactement. Un communiqué de presse qui, en langage diplomatique, était extrêmement engagé. Mmh. Extrêmement engagé, ce qui est quand même une rupture forte dans la stratégie de communication de ces 3 États, de la France, du Royaume-Uni et du Canada. Et donc, c'est très tardivement, malheureusement, mais on arrive à quelque chose. Et je vous rejoins dans votre analyse initiale et l'analyse de notre participant à distance, c'est que les pressions extérieures semblent peser pour l'instant. On n'est pas encore assez loin. On peut aller beaucoup plus loin sur la personne de Benjamin Netanyahou, sur son entourage. Et à mon sens, il faut aller encore plus loin pour arriver à une paix, en tout cas une trêve rapide.
Alain Dikoff, les prises de parole suffisent-elles ? Parce qu'effectivement, elles se multiplient. Alors, on peut citer aujourd'hui, elles sont fortes. Hein, ce qu'a dit Friedrich Merz, le chancelier allemand, dans une rare fermeté. Il a dit qu'il ne voulait plus continuer à soutenir l'allié israélien. Il y a énormément de choses qui sont dites. Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que c'est ça la pression que vous évoquiez au début de votre première intervention en disant que c'est peut-être ce qui est en train de faire bouger les lignes ? Parce qu'il y a aussi des initiatives qui sont menées et on va les évoquer.
Alors, ce n'est pas suffisant, mais vous évoquiez en effet la prise de position quand même du chancelier allemand. C'est quand même une voix qui porte beaucoup, parce que l'Allemagne est quand même l'État européen, pour des raisons historiques, qui est le plus proche d'Israël. La défense d'Israël fait partie un petit peu d'une sorte de raison d'être, on pourrait dire un tout petit peu, de la République fédérale d'Allemagne. Donc le fait que le chancelier ait dit qu'il ne comprenait plus ce qu'Israël était en train de mener, que la guerre était devenue en fait une impasse totale, que c'était une fuite en avant, c'est quand même assez inhabituel dans la bouche d'un chancelier. Et il faut aussi dire, c'est une chose qui n'est pas toujours suffisamment connue. On parle beaucoup de l'alliance militaire avec les États-Unis, mais les États-Unis donnent 80% de l'armement. Il y a une bonne vingtaine de pourcents qui viennent d'Allemagne. On ne le sait pas assez. Donc, ça veut quand même dire que cette prise de position, pour moi, elle a quand même une certaine importance. Alors, les mots, pour répondre à votre question.
Alors, pardon, je me permets de vous couper, Alain Dikoff, parce que vous évoquiez justement les ventes d'armes à Israël de la part de l'Allemagne. aujourd'hui, et c'est peut-être les contradictions européennes, le ministre allemand des Affaires étrangères a dit l'Allemagne va continuer de vendre des armes à Israël.
Oui, alors, mais en même temps, le chancelier, c'est quand même lui qui dirige. Mais ouais. Pour l'instant, il n'a rien dit sur ce plan précis. Hein. Il ne faut pas lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. Mais bon, je crois que c'est quand même un changement de ton qui a son importance et qui montre que, si vous voulez, les plus proches, en réalité, maintenant, demandent à Israël d'arrêter. En fait, c'est ça que ça veut dire. Donc, les mots en eux-mêmes, c'est vrai, ils ne sont pas suffisants. Mais il n'y a pas eu que les mots. Il y a quand même eu la décision, au début de la semaine dernière, de l'Union européenne, qui est quand même un coup de semonce, qui est le réexamen de l'accord d'association israélo-européen de 1995, qui rentre en vigueur en 1995, et un petit peu quand même à la surprise de beaucoup, finalement, il y a eu une majorité d'États européens, donc 17 sur 27, qui ont souhaité, et donc une majorité, qui ont souhaité que cet examen, que cet accord soit réexaminé. Alors cet accord, encore une fois, je précise, il permet une assez grande liberté de commerciale, hein, entre l'Union européenne et Israël. Il est très important pour Israël, beaucoup moins pour l'Europe, parce qu'Israël est un petit marché, évidemment, alors que le marché européen est très important pour Israël. Et donc, le réexamen, il porte sur l'idée qui est contenue dans l'accord, à savoir que les parties contractantes s'obligent à respecter les droits de l'homme et le droit international. Donc là, évidemment, il est assez évident que, au vu de ce qui se passe depuis 20 mois, il y a eu des infractions à ce droit et aux droits de l'homme. Donc, il y a des motifs légitimes de réexaminer cet accord. Mmh. Alors, évidemment, de là à ce qu'une décision soit prise, ça prendra encore beaucoup de temps. Mais c'est quelque chose qui peut peser. Je crois qu'il ne faut pas le sous-estimer. Mmh.
Jean-Paul Chagnolot, bonsoir.
Bonsoir.
Merci de nous avoir rejoints en studio, professeur émérite des universités, président de l'IREMO, l'Institut de recherche d'études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient. Vous, comment est-ce que vous jugez les... Alors, on va faire le tour des prises de parole, des initiatives. On a évoqué la déclaration du chancelier allemand aujourd'hui. Et puis, au niveau des initiatives, Alain Dickhoff évoquait, est-ce que c'est ce qui est le plus important selon vous, ce réexamen annoncé par l'Union européenne de l'accord d'association conclu en 1995 avec Israël? On rappelle que l'Union européenne, c'est le premier partenaire commercial d'Israël. Mais je vais aussi citer trois autres initiatives. Il y a eu le Royaume-Uni qui a annoncé la suspension des négociations concernant un nouvel accord de libre-échange avec Israël. Ça aussi, c'était la semaine dernière. Il y a les ambassadeurs d'Israël à Paris, Londres, Rome, Lisbonne, aujourd'hui Stockholm, qui sont convoqués. Et on peut aussi évoquer l'Espagne qui a proposé un embargo sur les ventes d'armes à Israël. Alors ça, c'est un débat, parce qu'on a vu qu'en Allemagne, c'est pas clair. Vous aussi, vous avez le même sentiment que Alain Dickhoff, Alexandre Chatillon aussi, qui disait que peut-être que là, il y a un moyen de pression qui est efficace contre Benjamin Netanyahu.
D'abord, mes excuses pour ce retard.
Je vous en prie.
Dû à une circulation particulière. Oui, je rejoins bien entendu l'idée qu'il s'est passé quelque chose de tout à fait nouveau en Europe, à travers les déclarations, et en particulier, je souscris à ce qu'a dit Alain Dickhoff à l'instant, l'Allemagne, évidemment. Les positions de l'Allemagne, on n'avait jamais vu ça. Mais en même temps, il faut bien comprendre l'écart de temporalité. Les déclarations, ce sont des déclarations qui annoncent des choses. Et pendant ce temps-là, à Gaza, les massacres continuent, les bombardements continuent, les déplacements de population continuent, etc., etc. Donc il y a une espèce de distorsion énorme entre ces déclarations qui, pour l'instant, ne peuvent rien arrêter. Ensuite, quand on parle de la suspension éventuelle de l'accord d'association de 1995, c'est un thème, c'est un peu un serpent de mer, ça, parce que ça a été évoqué depuis 20 ans, souvent, mais dans des conditions, évidemment, qui n'avaient rien à voir avec celles que nous connaissons aujourd'hui. Mais en même temps, ça ne s'est jamais fait. Il n'y a pas eu la moindre entaille à ces accords, à tel ou tel moment, dans l'histoire complexe et douloureuse du conflit israélo-palestinien. Et donc là, on va procéder à un examen. Alors, il y a une majorité maintenant de 17, je crois, effectivement, pays qui sont pour. Mais Mme Kallas, par exemple, en un premier temps, n'était pas tout à fait décidée à y aller. Simplement, quand elle s'est aperçue qu'il y avait évidemment, sa position dépend des positions des États. Mais quand même, c'était... Donc, elle a finalement lancé ce processus, mais c'est un processus qui va durer longtemps. Et admettons même qu'il y ait un certain nombre de décisions prises concrètes, ça va mettre du temps pour se mettre en place ensuite, mettre du temps pour la décision, puis pour que la décision soit effective. Ouais. On sait ce que ça signifie. Ça signifie des sanctions sur le plan commercial, mais ça va prendre un temps fou. Et donc, on est dans un décalage tout à fait important. Pour prendre un autre exemple très, très concret et très, très symbolique, aujourd'hui, M. Netanyahou et M. Galant ont un mandat d'arrêt qui a été lancé par la Cour pénale internationale.
L'ancien ministre de la Défense.
Ancien ministre de la Défense, pardon, oui. Bon, et les réactions en Europe, c'était il y a plusieurs mois maintenant, mais les réactions en Europe étaient très contrastées. La France, par exemple, a dit qu'elle n'était pas tout à fait obligée en faisant, à mon avis, une erreur sur le plan juridique. Mais voilà peut-être des choses à dire très concrètement. C'est que s'il vient en Europe, il sera arrêté. Et, ça, et quand je dis ça, ça serait simplement pour les États européens, simplement le fait de remplir leurs obligations de signataire du traité de Rome. Le traité de Rome, c'est le traité fondateur de la Cour pénale internationale. Si vous allez sur le site de la Cour pénale internationale aujourd'hui, vous avez toute une page sur les accusés, les defendants. Eh bien, vous avez aujourd'hui Netanyahou et Galant avec comme sous-titre, si je puis dire, en fuite. Vous voyez le décalage. Bien donc sûr. On est un peu dans.
Mais justement, ce décalage.
Et ça, c'est très important. C'est très important. Donc, si vous voulez, je crois qu'il y a effectivement, pour résumer, il y a effectivement quelque chose de tout à fait nouveau en Europe. Mais malheureusement, je suis pas du tout certain que ça pèse suffisamment parce que les choses vont très vite à Gaza dans des conditions terribles.
Et qu'est-ce que pourrait faire la communauté internationale différent? Pour peser davantage.
Je crois que la réponse, elle est assez simple.
Côté américain.
La clé, à chaque fois, on le dit depuis des années, la clé du conflit est quelque part du côté de Washington. Et il est évident que s'il y avait, par exemple, une suspension des armements venant de Washington, ça changerait la donne de manière concrète. Mais on n'en est pas là, à ma connaissance. Donc je crois qu'il faut bien comprendre qu'on a fait un pas important, mais ce pas, à mes yeux, est tout à fait insuffisant, évidemment.
Si je peux rajouter
Alexandre
quelque chose.
Alexandre Chatillon.
Je ne peux être que d'accord que le temps diplomatique est éminemment trop long pour sauver la vie des Gazaouis. Quelque chose qui peut être fait rapidement, c'est mettre des sanctions économiques sur Netanyahou et les gens de son entourage. Ça, c'est un mouvement fort. Pour donner la perspective aux auditeurs, il y a quelques mois, Netanyahou est quand même venu en Pologne, alors qu'il n'a pas le droit de survoler le territoire européen. Et il a été quand même accepté en Pologne. C'est pour mesurer à quel point, il y a quelques mois, les États membres de l'Union européenne étaient très loin d'une position, et on se rapproche progressivement vers une position plus commune, en tout cas plus majoritaire, qui va conduire et qui peut conduire à moyen terme sur des décisions qui peuvent fondamentalement impacter positivement le conflit. Néanmoins, c'est du temps très long. Évidemment, la réponse, elle est du côté de Washington, mais elle est aussi du côté de l'Élysée, elle est aussi du côté du 10 Downing Street, de prendre leur téléphone, de continuer le travail auprès de Netanyahou pour lui dire d'arrêter ces massacres et de dénoncer ces massacres. Si ces massacres sont dénoncés par les autorités des pays européens, il y a de grandes chances que ça s'arrête beaucoup plus facilement, et c'est une lapalissade de dire ça, que si ils ne le font pas.
Jean-Paul Chaignolo, rapidement, avant de passer
juste
à la seconde partie.
Moi, je suis d'accord. Si nous étions dans la rationalité, je ne crois pas que nous soyons dans la rationalité. C'est-à-dire que la réaction de gens comme Netanyahou et d'autres, Smotrich, Benvir et toute cette coalition, ça risque d'être, je ne sais pas ce que ça sera, mais ça risque d'être au contraire une rétraction et une radicalisation. Avec évidemment le fait de ne rien entendre de ce qui est dit, au moins pendant un temps. Et donc, il y a un effet pervers dans l'immédiat, avant qu'on puisse revenir peut-être à quelque chose qui aboutirait effectivement à une pression qui aurait un effet. Dans un premier temps, je crois que ces gens-là ne raisonnent pas comme ça.
Mais surtout qu'il y a un décalage, vous évoquez le décalage, en voilà un autre, entre ce que dit Benjamin Netanyahou, tout simplement, le Premier ministre. La semaine dernière, il disait on est proche d'un accord sur les otages, il semblait lâcher du lest, et en même temps, Israël va prendre tout le territoire de la bande de Gaza. Comment est-ce qu'on peut prendre ce genre de déclaration?
Moi, je suis toujours étonné qu'on se pose encore la question de savoir ce que veut Netanyahou. Il l'a dit. Et ça consiste en fait à écraser Gaza, mais ça s'est fait. La ville de Rafah, par exemple, on a vu plein d'images, c'est rare, mais on l'a vu, est systématiquement rasée, pas avec des bombardements seulement, si j'ose dire, mais aussi au bulldozer. C'est-à-dire qu'on a tout liquidé, il n'y a plus de ville de Rafah. Elle a été rayée de la carte. Khan Younes doit être dans un état à peu près similaire, et Gaza a déjà été très largement bombardée. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est prévu? C'est des plans très clairs. On segmente le sud de la bande de Gaza pour y concentrer la population. Et donc, ça veut dire un million et demi de gens qui vont se retrouver dans le sud de Gaza. Bon, et qu'est-ce qu'on va faire de cette population ? Le deuxième volet, c'est qu'on va permettre à l'armée, et à l'armée israélienne seulement, c'est dans le projet, de distribuer l'alimentaire. C'est un des grands débats aujourd'hui. Et ensuite, évidemment, ça signifie qu'il y aura des conditions impossibles pour ces gens de vivre. Et donc, on leur dira, bah, si vous voulez vous en sortir, partez. C'est ça la logique. Alors, oui. J'espère qu'elle ne sera pas mise en œuvre, mais c'est ce qui est énoncé, c'est ce qui est dit officiellement. Mmh.
RFI, le débat du jour, Romain Ozoui.
Faut-il rompre avec Israël ? La question qu'on pose ce soir dans le débat du jour, alors que évidemment l'offensive militaire israélienne s'intensifie à Gaza. 33 personnes tuées dans le bombardement d'une école qui abritait des déplacés, selon la défense civile palestinienne à Gaza. Et cette phrase, évidemment, qui retient notre attention aujourd'hui et qui montre la mobilisation de la communauté internationale, le chancelier allemand Friedrich Merz, qui menace, dans une rare fermeté, de ne plus continuer à soutenir l'allié israélien. Mes trois invités sont Jean-Paul Chagnolot, professeur émérite des universités et président de l'IREMO, Alexandre Chatillon, cofondateur et directeur de l'ONG Supernova, et Alain Dikoff, directeur de recherche au Centre d'études internationales Sciences Po. Pour résumer notre première partie, finalement, oui, ça fait pression, oui, ce sont des prises de parole fortes et des décisions, et on a évoqué le réexamen par l'Union européenne de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, qui date de 1995, mais vous êtes d'accord, en tout cas, je n'ai pas entendu encore Alain Dikoff sur ce sujet, mais vous, Jean-Paul Chagnolot et Alexandre Chatillon, pour dire que la balle est dans le camp des États-Unis. D'où ma question, Alain Dikoff, est-ce que ce fameux soutien américain, il peut être envers et contre tout, et est-ce qu'avec Donald Trump, et au regard des premiers mois de mandat, les choses peuvent, selon vous, changer ?
S'il y a une chose qu'il faut voir depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, c'est que il y a parfois des décisions imprévisibles. Donc, c'est vrai, bien évidemment, que l'alliance avec Israël a été, en un certain sens, confortée. Mais en même temps, ce qu'il faut dire aussi, c'est que Trump a mis à plusieurs reprises les Israéliens devant des décisions pour lesquelles ils ne les avaient pas consultés. Exemple, la reprise des négociations avec les États-Unis, avec l'Iran, pardon.
Sur le nucléaire.
Oui, sur le nucléaire. L'accord de finalement d'arrêt des bombardements américains contre les Houthis au Yémen, où là aussi Netanyahou n'a pas été consulté. Ce que je veux dire par là, c'est que on ne peut pas entièrement exclure, je ne dis pas que ça se fera, mais on ne peut pas entièrement exclure que finalement Trump, à un moment aussi, finalement dise aux Israéliens d'arrêter, et quitte à utiliser même la menace, s'il considère qu'en effet, il a un intérêt à le faire. Mais je voudrais peut-être réintroduire aussi un acteur dont on n'a pas parlé et qui peut avoir un effet quand même. Sur la question des prises de position que l'Union européenne, entre autres, a pu prendre avec la question de l'accord d'association. C'est une partie de l'opinion publique israélienne, quand même. Parce que il y avait une logique de durcissement de la position européenne, alors c'est vrai, je suis entièrement d'accord avec ce que Jean-Paul Chagnolot a dit, évidemment, tout ça prendra du temps. Mais s'il y a beaucoup de consultations d'ambassadeurs israéliens, s'il y a le début de ce processus de réexamen du dossier, une partie de l'opinion publique israélienne qui est plutôt d'ailleurs, enfin c'est cette partie qui serait plus anti-Netanyahou en plus, elle pourrait aussi en interne, je dirais, jouer un peu son jeu et protester en disant il faut arrêter parce que cette guerre, en plus, elle nous isole complètement du monde extérieur et en particulier de ceux qui sont quand même nos partenaires, oui, y compris commerciaux. Il faut penser aussi qu'il y a des milieux d'affaires, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc ça peut quand même avoir un effet en interne qui s'ajoute au reste, qui n'est pas suffisant, encore une fois, c'est pas la clé ne viendra pas de là, mais c'est aussi quand même un effet que ces nouvelles dispositions peuvent avoir en interne.
Jean-Paul Chagnolot, sur le soutien américain, Alain Dikoff disait que les choses pouvaient bouger. Et effectivement, là, il y a eu la tournée au Moyen-Orient de Donald Trump. Il n'est pas passé par Israël, c'est pas passé inaperçu. Le ton n'est plus le même. On dit que Donald Trump est agacé par Benjamin Netanyahou. Comment vous voyez les choses ?
C'est imprévisible, évidemment, ouais. Donc on ne sait pas. C'est vrai, par exemple, qu'il a fait libérer un otage israélo-américain sans passer par Netanyahou, qu'il a levé les sanctions sur la Syrie, qu'il a directement négocié avec les Iraniens sur un sujet absolument fondamental, et Netanyahou est vent debout contre toute bien négociation sûr. Avec l'Iran, etc. Donc c'est vrai, mais pour le moment, les armes américaines continuent d'arriver, et une fois encore... C'est le décalage, bien sûr. C'est-à-dire que,
par rapport à ce qui se passe à Gaza.
Tous les jours, il y a des dizaines de civils qui sont tués. Ce plan que j'ai évoqué en quelques mots, mais qui est très, très officiel, il se met en place petit à petit, mais il se met en place. Et j'ai l'impression que c'est une course contre la montre, quoi. Et en fait, une course contre la montre dans laquelle les Européens ne courent pas très vite, quoi. Et les Américains encore moins. Et c'est ça qui me gêne. Qu'il y ait une prise de conscience, ça c'est clair. Qu'elle soit, à mon avis, un peu tardive, c'est aussi à mon avis assez clair. Mais bon, l'important c'est que ça ait lieu, mais que ça ait des effets. Le problème c'est que quand est-ce que ça aura des effets ? Et ça, je ne sais pas. Personne ne sait vraiment ça. Ça risque d'être un peu trop tard. Elles sont arrivées un peu tard et les effets peuvent être tard. C'est ça.
Ouais. Avec Chantillon, il y a effectivement déjà la mise en place de ces mesures. Si effectivement le réexamen de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël aboutit. Dans combien de temps ? C'est la première question. Et s'il aboutit ? Et si, effectivement, faut-il rompre avec Israël ? La question qu'on pose, moi, j'ai envie de vous dire, mais même si la communauté internationale rompt avec Israël, je mets de côté les États-Unis parce que la question est particulière, est-ce que ça changera ? Et ça pose la question du décalage avec ce qui se passe à Gaza. Est-ce que ça changera vraiment ? Est-ce que ça arrêtera l'offensive israélienne à Gaza ? Que faut-il pour que cette offensive israélienne s'arrête ? Et est-ce qu'elle n'est que dans les... Que dans la main de Donald Trump, cette réponse.
Ouais, la question que vous posez, c'est quel est le poids de l'Union européenne, finalement, sur le chaîne diplomatique internationale. Mesurer. On donne beaucoup d'argent, l'Union européenne donne beaucoup d'argent. Le premier angle de l'Union européenne, c'est de donner de l'argent dans la coopération, dans l'humanitaire. Et finalement, on n'en sort pas toujours un crédit politique, parce qu'en fait, l'Union européenne est une organisation composée de différents États aux intérêts géopolitiques, parfois très opposés. On en parle à Gaza avec la Pologne et le reste de l'Europe. On peut parler sur la Libye, entre la France et l'Italie, par exemple. Donc, le poids qu'on a, il est extrêmement limité.
C'est ça.
Moi, je reviens sur ce qui a été dit sur l'opinion publique israélienne. Je crois que c'est un des leviers. Aujourd'hui, un sondage qui est sorti la semaine dernière en Israël, 79% des électeurs en ont marre de Benjamin Netanyahou en Israël. C'est un gouvernement d'extrême droite, composé de deux partis d'extrême droite, dont un est démissionnaire du gouvernement. Combien de temps ce gouvernement peut encore tenir ? Et je crois qu'une partie de la solution à moyen terme, il est sur la scène politique intérieure israélienne. Et comment l'Union européenne et les acteurs étrangers, on peut donner du poids à la scène, à la gauche mesurée, progressiste israélienne, pour peser plus dans le débat politique et donc arrêter le massacre.
Jean-Paul Chagnelot, dernière question. Est-ce que, finalement, agiter la solution à deux États, parce que c'est quelque chose qui revient, du 17 au 20 juin prochain, il y aura cette conférence internationale organisée par l'Assemblée générale de l'ONU à l'initiative de la France et de l'Arabie saoudite. L'objectif affiché, relancer une solution pacifique. Solution dite à deux États. Est-ce que ça peut être un moyen de pression efficace contre Benjamin Netanyahou ?
Je ne crois pas que ce soit actuellement un moyen de pression efficace, mais je crois que c'est une initiative essentielle.
Ouais.
Parce qu'en clair, surtout qu'elle va être conduite avec l'Arabie saoudite, mais aussi avec d'autres pays, enfin, c'est vraiment une réunion internationale avec des objectifs clairs et qui consiste à dire il faut revenir au droit international, il faut sortir de ce conflit et le seul moyen, c'est la solution à deux États. Donc je crois que c'est tout à fait essentiel que cette initiative ait lieu et par conséquent, on a enfin une perspective politique, mais bien entendu, Netanyahou ne va pas en vouloir, donc ça va être un combat politique, et une fois encore, on revient, ça va se passer à New York, cette conférence aux Nations Unies, et on revient aux États-Unis, et évidemment, ça va, la position de Washington sera décisive. Juste un dernier mot, par rapport aux pressions, je ne sais pas si on se souvient, mais au moment de Rafah, il y a plusieurs mois, lorsque l'armée israélienne n'était pas encore à Rafah, il y a eu beaucoup de pressions pour empêcher que l'armée israélienne aille à Rafah, y compris des pressions américaines avec Biden. Aujourd'hui, Rafah est rasée.
Et j'étais à Rafah, sur le toit de ma maison à Rafah, et je voyais la frontière égyptienne à 50 mètres ou 100 mètres. Et aujourd'hui, le quartier où j'étais est totalement détruit. annihilés.
Merci beaucoup à vous trois. Faut-il rompre avec Israël? La question finalement sous-jacente, c'est comment est-ce qu'en rompant avec Israël, l'offensive militaire sur Gaza s'arrêtera pour autant? Merci beaucoup à vous trois, Jean-Paul Chagnolo, Alexandre Chatillon et Alain Dikoff. Et merci à Florence Pons qui était à la préparation de ce débat que vous pouvez réécouter sur RFI.fr, le podcast évidemment. Et Claude Battista à la réalisation.
RFI.
Et dans une minute, ce sera le grand journal du soir et on évoquera la journée de Jérusalem dans le dossier de Christophe Paget. Et 30 minutes plus tard, Afrique Soir, la première édition de ce lundi. Zéphirin Quadio est à nos côtés. Bonsoir Zéphirin.
Bonsoir Romain.